Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séances Radio.
Bonsoir, bienvenue à tous sur Séance Radio pour cette grande séance. Vous connaissez le concept maintenant, c'est un rendez-vous que vous aimez bien et que vous suivez. Alors, je vais vous donner le programme, il est riche. D'abord, nos blogueurs seront là. Maël aussi, qui vient d'entrer dans le studio, donc il n'est pas vraiment en retard, tout va bien. Claire Fayot sera là pour le genou de Claire.
Bonsoir.
Antoine Corté, bonsoir Claire, pardon. Antoine Corté pour Bulle de Culture.
Bonsoir.
Et Alexis Yomet pour Filmosphère.com et CloneWeb.
Bonsoir.
Ensuite, nous parlerons du film avec une invitée prestigieuse. Nous parlerons et que nous accueillerons à bras ouverts, puisque c'est le titre du film qu'elle vient défendre de Philippe de Chauvron. Et qui sort aujourd'hui, qui est sorti aujourd'hui, on a déjà un peu les premiers chiffres. Donc on parlera de ce film, on parlera de sa carrière, Elsa Zieberstein, qui a fait une magnifique carrière et qui ça n'est pas fini. Maëlle sera votre lien, sera notre lien. Et si vous avez des questions à poser à Elsa Zieberstein, n'hésitez pas, allez-y en direct. On a plein de temps pour vous répondre et elle sera là dans quelques instants. Elle est dans les embouteillages pour le moment. Évidemment, notre rendez-vous sur le box-office, les tops et les flops français et américains, et il y a de quoi dire. Les blogueurs auront leur coup de cœur. On parlera des événements, Colcoa à Los Angeles et Sérimania à Paris. Et ça nous permettra d'ailleurs d'engager un débat sur séries télé ou cinéma. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les séries sont en train de bouffer, entre guillemets, le cinéma? N'hésitez pas à intervenir, à donner vous aussi votre avis. Et puis, comme on parle de « À bras ouverts » et que l'un des personnages principaux qui joue le mari d'Elsa Zieberstein, qui joue Jean-Étienne Fougerolles, un espèce de bourgeois pseudo de gauche dans le film de Philippe de Chauvron, il y aura un blind test sur tous les films de Christian Clavier. Je pense que ce sera pas trop compliqué. Dans un instant, les tops et les flops du box-office.
La grande séance, le box-office.
Alors, on va commencer par les films français. On va rendre hommage à Patient, de Grand Corps Malade, et de son acolyte, puisque le film a franchi le million d'entrées, et on peut dire que le sujet n'était pas évident.
Hein,
reconstruction d'un jeune homme pendant 20 ans, pendant un an, après qu'il soit tombé dans une piscine et qu'il soit presque tétraplégique. Un million d'entrées, donc il faut féliciter ce succès. Sage-femme est à 450 000 entrées en deux semaines, ce qui est pas mal du tout.
Ouais.
Pour le film de Martin Provost.
Une grosse affiche, en tout cas.
Une belle affiche. On peut dire que Catherine Fraud continue à être très populaire parce que si on comptait tous les films qu'elle a fait et les scores, elle fait toujours de très bons scores, on le sait, y compris avec Marguerite, hein, le film où elle était une chanteuse qui chantait faux, Catherine Fraud. Et on peut penser, puisque les vacances arrivent, qu'il peut aller vers les 600, 700 000 entrées. Il faut se rappeler que Séraphine, qui n'était pas non plus un sujet très grand public, a priori, de Martin Provost, avait terminé à 850 000 entrées quand même. Donc ouais. ça c'est une bonne performance. Et puis Alibi.com continue son bonhomme de chemin. Il est aujourd'hui à 3 500 000 entrées.
Oh.
Le petit Philippe, hein.
C'est
Philippe Lachaud,
la bande à Fifi.
Ouais. Et comme ce sont les vacances qui approchent, il peut aller vers les 4. C'est quand bon. Même assez balèze.
Oui, sans doute.
Voilà. Dans les flops français. Alors, justement, je parle de la bande à Fifi. Il y a ce film Gangsterdam qui a démarré quand même moins fort qu'on ne l'attendait. qui est à 210 000 entrées. Il faut pas oublier que Radio Star de Romain Lévy avait fait 700 000 ou 800 000 entrées, donc je suis pas sûr qu'il fasse le même score. Puis il a peut-être été victime aussi de la polémique, parce qu'il y a eu toute une polémique autour du film Gangsterdam. On a pas trop le temps d'en parler, mais il y a eu une polémique. Ça c'est pour les flops français. De plus belle, avec Florence Foresti, ne marche pas très très fort. Il est à 175 000 entrées en 3 semaines.
On peut pas dire que. Il n'a peut-être pas été très distribué et puis il n'y a pas eu beaucoup de promotion
non,
autour
c'est
du
vrai.
Film.
C'est vrai, c'est exact. Autre échec a priori, hein, c'est Telle mère, telle fille qui est sorti mercredi dernier. Donc, qui a fait sa semaine complète et qui fait moins de 100 000 entrées. Je crois qu'il est à 90 000. Donc, avec Juliette Binoche.
Camille Cotin.
Noémie Sagli et Camille Cotin. Donc, ça, c'est pas un gros carton. Côté américain. C'est quand même La Belle et la Bête, qui vient de franchir le cap des 2 millions d'entrées.
Ouais. Gros carton, partout
gros,
dans
gros
le monde.
Carton.
Partout dans le monde. D'ailleurs.
Partout dans le monde, ouais. Partout dans le monde. Vous savez à combien de dollars il est dans le monde? Posez-moi la question. 900 millions de dollars dans le monde.
Ah bon, bah le milliard est dépassé la semaine prochaine.
Absolument, le milliard va être dépassé. Et alors, le gros scoop, c'est qu'ils vont en faire un 2, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de La Belle et la Bête?
J'ai entendu dire que ça serait un préquel, donc l'histoire du père de Belle, Belle dans sa petite enfance, la maman de Belle. Puisque sans spoiler, il y a une petite référence à la mère de Belle. Donc moi, c'est ce que j'ai entendu.
Incroyable. Et la bête dans cette histoire?
Bon, la bête, elle aura sûrement aussi son enfance. Mais enfin, bon, l'enfance,
bah oui,
de, la
l'enfance
bête,
de la bête,
elle
est sans poil. Elle n'est pas au poil, l'enfance de la bête.
Elle est déjà
c'est ça le problème.
Est-ce qu'elle sera déjà moche?
Bah non.
Voilà,
non, parce qu'elle est transformée au début de... Il y a un problème. Oui, c'est incroyable, les Américains.
On pourra décrire l'enfance des deux personnages principaux.
Baby Boss, que je n'ai pas vu.
Ou que très rigolo. Bah, moi,
très
j'ai
rigolo.
Moi j'ai aimé.
Oh.
Voilà.
Je sais pas, moi j'ai été refroidi par la bande-annonce. J'économise mon temps.
Alors je l'ai vu et la bande-annonce n'est pas très vendeuse. Moi j'ai
un million en une semaine.
Ça, c'est les vacances.
C'est pas mal, hein. C'est un film Fox.
Oui, c'est
ouais,
ça.
C'est ça,
c'est
hein.
ça. Non, Dreamworks.
Oui, Dreamworks.
Pardon. On en a pas beaucoup parlé de ce film.
Bah,
je sais
non.
pas, moi je l'ai pas vu.
En tout cas, je pense que là ils peuvent faire des entrées parce que là ce sont les vacances scolaires.
Absolument.
Et c'est typiquement le genre de film où on peut emmener ses enfants et passer un bon
donc,
moment.
Donc 1 million en première semaine. Ghost, alors côté flop, Ghost in the Shell démarre tout doucement, hein, on est d'accord.
Bah, là encore, il y a eu une polémique.
Il y a une polémique. C'est quoi la polémique,
bah,
Claire?
La polémique du whitewashing, j'en ai déjà parlé sur séance live. Donc le personnage incarné par Scarlett Johansson devait être japonais, si l'on en croit
le manga,
enfin le film d'animation original.
Oui.
Voilà. Sauf que là, ils ont créé une autre histoire, une pirouette scénaristique pour retomber sur leurs pieds.
Mais c'est un droit, c'est la licence poétique.
C'était un homme surtout dans les BD, non?
Non,
alors là ce serait énorme.
Non,
l'histoire est déjà un petit peu difficile à expliquer, donc à attirer public, oui. Puis le film est pas forcément extraordinaire non plus. Donc,
Alors, il a coûté quand même 120 millions de dollars, et il en a rapporté pour le moment aux États-Unis 23.
Ouh, ça
c'est rude.
Mal.
Ça fait mal.
Très rude.
Bah, comme quoi, il vaut mieux faire des copier-coller, hein, en live action que de tenter d'aller vers autre chose.
Et donc, on peut dire que c'est un flop. C'est un flop. Voilà pour les flops et les tops. On espère que tout ça va bouger un petit peu à l'approche de Cannes, mais c'est pas évident. On se retrouve dans un instant pour votre actualité, mes chers blogueurs.
La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
Claire Fayot, le genou de Claire. On va commencer par un coup de cœur, qui est aussi le mien d'ailleurs, j'en profite pour le dire. Un film de Nicolas Sillol, ça se prononce Sillol, avec Céline Sallette et Lambert Wilson, Stéphane De Groot, et Violaine Fumeau, qui joue l'inspecteur du travail. Et c'est pour un coup d'essai, parce que c'est un premier film, c'est un coup de maître.
Ah oui, alors c'est un coup de cœur, c'est un coup au cœur, c'est un coup de poing ce film. Alors, de quoi ça parle, Corporate? Eh bien, ça parle du monde de l'entreprise. Le personnage interprété par Céline Sallette est une jeune DRH, une killeuse. Donc, en gros, elle doit décraisser les effectifs de sa multinationale. On nous prévient dès le début. C'est de la fiction, mais les méthodes de management sont réelles.
Ouais,
et
c'est drôle d'ailleurs de voir affiché au générique de début... Les faits sont tirés de la fiction, mais les méthodes management sont réelles. Là, on sourit, on se dit, oh là, ça va être chaud.
Et oui, automatiquement, on pense aux événements
De France
sont
Télécom.
Survenus à France Télécom. Mais je dois dire que ça va au-delà de ça.
Oui, ça s'éloigne, heureusement. Heureusement. C'est beaucoup plus universel.
Voilà, c'est beaucoup plus humain. Et on se retrouve malheureusement, moi qui ai connu des situations professionnelles difficiles, que j'ai observé ou ce que j'ai subi, je l'ai retrouvé dans ce film. Mais, comme vous l'avez dit, c'est aussi très humain. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas du Ken Loach où on va... Il y a un côté humain et surtout, il y a une prise de conscience du personnage principal qui est extrêmement intéressante et salutaire. Et il y a le beau personnage interprété par Violaine Fumeau,
ouais,
le personnage de l'inspectrice du travail, qui nous montre vraiment que voilà, il faut parler et qu'on peut faire quelque chose. Bonsoir.
Voilà. C'est
difficile.
Il y a un blanc, un ange passe et cet ange, c'est Elsa Zieberstein. Voilà ce qu'il faut dire. C'est un ange qui vient d'entrer dans le studio. Donc, on parlait de ce très bon film Corporate de Nicolas Sia. Oui, il faut quand même dire que c'est l'histoire de la prise de conscience d'une DRH qui jusqu'ici était psychorigide. Elle faisait son boulot.
Et
son boulot consistait à pousser les employés de sa boîte à démissionner. Voilà. Elle voulait pas les virer. Et voilà. Elle avait même un training pour apprendre à faire ça.
Voilà,
et
méthode puis un jour, de un harcèlement drame arrive, moral, placardisation, ou tout simplement loi du silence. Et
là, vous avez raison, c'est que c'est très humain parce que au début, elle va vouloir, on dit juste au début, elle va vouloir se sauver sa peau. Et ne pas être tout à fait corporate, solidaire avec sa boîte, et puis après elle va prendre une réelle conscience de ce qui se passe et elle va essayer de se réconcilier avec elle-même, mais il ne faut pas dire plus.
C'est intéressant aussi parce que ça montre la souffrance des DRH, ils sont poussés à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, et surtout encore une fois je pense que ce film pourra libérer la parole chez certaines personnes peut-être qui souffrent d'une situation professionnelle difficile. En tout cas, c'est un film d'actualité.
Oui, c'est un bon film français. Un des bons films français de cette année.
Alors, il y a peut-être des côtés déjà vus, mais malheureusement, le monde du travail est comme ça. J'en profite juste pour faire une petite parenthèse. Je sais que le DVD des Têtes de l'Emploi, qui est une comédie sur le monde du chômage avec Elsa Zieberstein, va bientôt sortir ou est sorti.
En VOD, il cartonne le film. On me dit tous les jours, on m'arrête pour me parler du film. Donc, c'est chouette.
C'est super.
Dans Corporate, on rit, mais on rit jaune, en fait, devant certains dialogues.
Oui, on rit jaune, absolument.
Là, c'est un film de qui, Corporate? Alors, j'ai pas
Nicolas. De Nicolas Sillol. C'est un premier film. Il avait fait des courts-métrages et c'est un premier film et c'est bien réussi. On va parler, Antoine.
C'est
Corté,
très bien joué.
Très bien joué, absolument. Céline Salette est remarquable, comme souvent.
Lambert Wilson.
Et Lambert Wilson aussi. À voix haute. Alors ça, c'est un très très beau documentaire. Il sort la semaine prochaine, Antoine.
Il sort la semaine prochaine, le 12 avril. C'est un documentaire qui était passé à la télévision sur France 2 il y a quelques mois, en novembre dernier. Et puis en fait, le sujet avait été tellement perçu par le par les téléspectateurs et tellement percutant que les producteurs ont décidé d'en faire un film et de le remonter complètement, de lui ajouter 20 minutes et pour une diffusion au cinéma. Et donc, de quoi ça parle à voix haute, c'est on suit des jeunes qui viennent de milieux défavorisés dans 93 à Saint-Denis
qui sont tous étudiants mais qui suivent un cursus différent et qui sont rassemblés par ce concours d'éloquence. Et
voilà, c'est ça.
Ils apprennent
le concours d'éloquence et donc du coup le montage est très bien fait parce que on suit d'un côté les ateliers d'éloquence pas à pas, leur évolution
jusqu'au concours jusqu'à la
d'ailleurs,
on assiste
à certaines joutes oratoires de certains des candidats. Et puis, à côté de ça, on a aussi des portraits, des focus sur ces jeunes participants au concours. Et en fait, finalement, on est complètement emballé par le film. D'une part, parce que ils arrivent tous à nous bluffer, à nous émouvoir.
J'ai pensé, c'est un jeu de mots facile peut-être, mais il y a eu Entre les murs et là c'est Entre les mots, MOTS. C'est exactement cette histoire.
Alors moi, ça m'a beaucoup fait penser à un autre film, Les Héritiers, qui était une fiction là sur justement une professeure qui inscrit sa classe au concours du mémorial de la Shoah pour se souvenir.
Avec cela en plus, Antoine, que dans le film à voix haute, ce qui est très beau, c'est que ces jeunes-là se rendent compte que tout passe par la parole et que quand on n'a pas la parole et la façon de pouvoir l'exprimer, on peut passer par la violence dès qu'on a un vocabulaire un peu trop court et un peu trop schématique. Et eux, ils apprennent à parler, ils apprennent à avoir de l'éloquence et ils sont tous maintenant vers des métiers plus ou moins artistiques. Et Eddy Monio, le jeune qui a gagné ce concours, qui faisait 4 heures à l'aller, 4 heures de retour en marchant pour aller jusqu'à la gare, etc. Il a gagné ce concours et il est acteur. Il a fait un petit rôle dans le film d'Edouard Baird, Ouvert la nuit. Et voilà, et c'est un type qui est très éloquent. Maintenant, moi, je l'ai rencontré. Et voilà, il est. Et c'est vraiment un très beau film et surtout sur la solidarité entre tous ces jeunes qui ne se connaissent pas au départ. Oui. Lac, Beurre, de toutes.
Et effectivement, il y a quand même un message qui est très fort, c'est que la parole est une arme et les mots sont des façons de se défendre. Donc vraiment très 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 bien et très humaniste.
Il faut aller le voir haute. Est-ce que il faut aller le voir à voix haute.
Rebondir puisque la parole est une arme mais se taire c'est aussi quelque part se faire violence en corporate. Et je voudrais juste faire un petit clin d'œil à Marla, une blogueuse qui nous écoute. Voilà, l'expression qu'elle a sortie pour parler de corporate, c'était « firme ta gueule » et je trouve que ce jeu de mots est excellent.
Ouais, c'est pas mal,
firme ta gueule.
Voilà,
c'est
donc
pas
ne
mal
firmez pas vos gueules.
Alexis Yomet, filmosphère.com et CloneWeb, vous nous parlez de ce festival Play It Again.
Voilà, qui commence aujourd'hui et qui ira jusqu'au 11 avril, donc c'est la troisième édition, donc c'est un festival qui fonctionne assez bien. C'est tout simplement, la tagline, c'est les films d'hier dans les salles d'aujourd'hui, donc c'est les distributeurs de l'ADFP qui proposent de revoir, donc dans les copies restaurées, tout ça, des films magnifiques, donc des films assez extraordinaires. Donc ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'au moins l'opération, elle se déroule dans toute la France, et pas juste dans un endroit c'est particulier. Bien. C'est dans 150 villes, il y a 190 salles qui participent à cette opération. Et donc, dans la sélection, c'est tout aussi éclectique, puisqu'il y a aussi des sections jeunes publics, des ciné-concerts. Alors, notamment, on a les grands Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau, on a Panique du Julien Duvivier, qu'on est en train de redécouvrir avec toutes les nouvelles restaurations qu'on fait de ces films, Indochine de Régis Varnier, qui est dans une copie 4K extraordinaire, ou encore, plus classique, Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard. Mais aussi, En international, il y a La Mélodie du Bonheur, Cri Chuchotement de Bergman, Blow Up d'Antonioni. Enfin, voilà, c'est une très bonne occasion, autant pour ceux qui avaient pu les découvrir en salle, de redécouvrir dans des copies restaurées, mais aussi pour les nouvelles générations de découvrir ces films-là en salle, parce que on n'a pas forcément l'occasion de revoir ces films-là dans les conditions idéales.
Claire Fayot.
Juste en parlant de jeunes générations, il y a deux films d'animation. Il y a le film Alice Comedies, donc Les Trésors de Walt Disney, on en a déjà parlé à l'antenne, et La Ferme des Animaux.
Voilà, donc c'est vraiment une occasion pour découvrir ces dessins animés-là qu'on a plutôt l'habitude de voir soit dans les cinémathèques ou des événements plus particuliers. Là, c'est dans 150 villes en France, donc normalement, difficile d'y échapper, donc c'est du 5 au 11 avril, donc ça commence aujourd'hui. C'est la troisième édition donc du festival Play It Again.
Claire nous parlait de Corporate, Antoine de À Voix Haute, ce beau documentaire sur l'éloquence, et puis Alexis à l'instant de Play It Again. Dans un instant, on se retrouve avec notre invité.
La grande séance, l'interview.
Donc, je vous l'annonçais en début d'émission, nous avons le plaisir de recevoir Elsa Zilberstein. Elsa, bonjour.
Bonjour.
Qui est à l'affiche de À Bras Ouverts, un film de Philippe de Chauvron, qui sort aujourd'hui. Mmh. Alors, je vais raconter l'histoire. Fougerolles, il s'appelle. Hein.
Ouais.
Jean-Étienne Fougerolles, joué par Christian Clavier, est un bourgeois plutôt de gauche. Il a écrit un bouquin qui s'appelle À Bras Ouverts, pour dire qu'il faut savoir partager en France, accueillir les migrants. Et dans un débat télévisé, face à quelqu'un d'une droite dure, il se laisse aller à dire, moi, écoutez, j'ai écrit ce bouquin à bras ouverts, je suis prêt à les écrire à bras ouverts, et l'autre le tacle, le pousse dans ses retranchements, et il se voit, au début, il hésite quand même, et voilà. Et parce qu'évidemment, il est sincère, mais enfin, point trop d'en faux. Mais au bon moment, acculé, avec sur un signe de sa conseillère en politique, il dit, moi, je peux en accueillir dans ma maison s'il le faut, parce que l'autre le pousse, bon, puis. Termine l'émission, il rentre chez lui, dans sa jolie maison de Marne-la-Coquette, avec un très beau jardin, avec sa belle épouse Daphné de Fougerolles, Elsa Zilberstein, et ding ding, ça sonne à la porte, et là, il y a une bande de migrants qui débarquent. Alors, il y a de Rome qui débarque, et plutôt sympathique, alors ça, il y a peut-être un débat autour du film, mais plutôt sympathique. C'est Harry Habitant qui joue Babic, je crois, le principal. Et ils vont s'installer dans le jardin, parce qu'il faut bien qu'ils s'installent quelque part, ils les accueillent. On sent les réticences quand même de ces bourgeois de gauche qui ont été élevés dans le partage, ma chère. Hein, à chaque fois, Christian Clavier est obligé de le rappeler à Daphné et son épouse Elsa Zieberstein, parce qu'elle elle est un peu plus réticente. Et puis, petit à petit, voilà, ça va se dérouler avec tous les gags qu'on peut attendre d'une comédie, car il faut qu'on se calme. Il faut dire que l'humour, ça fait partie du cinéma. Et qu'il ne faut pas, à chaque fois qu'un film sort, qu'il y ait une police de la pensée qui guette la faute et que ça commence à nous gaver.
Moi, je suis merci Bruno de dire ça.
Ça commence à nous gaver parce que moi, quand j'avais 20 ans et que Louis de Funès disait « Salomon, vous êtes juif », eh ben tant pis, je vous regarde quand même. Si le film sortait aujourd'hui, il ne serait pas sortable. Donc, Philippe de Chauvron n'est pas raciste. Je le connais, je l'ai rencontré.
Ça passe toujours à la télé, en plus.
Non, mais en plus, c'est même pas... Je veux dire, il y a aussi ça, quand on sort Borat, on est dans l'excès de tout, les mecs sont gras, immondes, on dit pas « Oh, mais comment vous osez montrer les gens comme ça ?» Ça me sidère qu'il y ait une sorte de bien-pensance, de morale.
C'est une bien-pensance.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est une police de la pensée.
Je veux dire, quand on fait la vérité, si je mens, les juifs, ils sont montrés complètement hystériques, excessifs. So what, on va pas faire une histoire.
Et sans comparer, Philippe de Chauvron à Ettore Scola, dans Affreux sale et méchant, les Italiens des bidonvilles étaient immondes. Voilà. Donc on ferme la parenthèse.
Ce n'est que du cinéma.
Et quand on voit bien le film, parce que évidemment, il faut pas toucher. Rome, c'est délicat. On voit bien les jeunes filles roms instrumentalisées par des types qui sont mille fois pires que ce qui est montré dans le film, Amidovic et autres, qui les violent, qui les mettent enceintes, qui les raquettent après qu'ils aient gagné de l'argent. On les voit tous les jours, j'en vois tous les jours dans le métro. Ça c'est pas dans le film. La famille de Rome dans le film est angélique.
Et en plus, elle veut s'intégrer. Elle arrête pas de dire qu'elle veut devenir des bons Français. Ils veulent s'intégrer.
Et d'ailleurs, le personnage moyennement sympathique, c'est quand même Christian Clavier qui les accueille un peu à reculons.
Et puis finalement...
Et dans la famille Rome, c'est un mec qui n'est pas Rome du tout, qui est un marginal qui a profité de l'accueil d'Étienne de Fougerolles pour se mettre aussi dans le jardin et dans la famille Rome, et qui lui n'est pas Rome du tout. Et c'est lui qui veut piquer la femme de Christian Clavier et qui drague Elsa Zieberstein. Donc voilà, on ferme la parenthèse.
Très
voilà.
Bien résumé, Bruno.
Voilà. Alors, ma chère Elsa, vous jouez une bourgeoise.
J'avais jamais fait ce genre de rôle, en fait, une espèce de bourgeoise héritière, un peu qui a pas de talent, qui fait du la jardin dans, de la sculpture dans son jardin.
Ouais, elle fait des sculptures assez surréalistes. Hein.
Non, mais moi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une comédie comme ça, je veux dire, un peu classique, même je crois que j'en avais jamais fait. Oui. Une grande comédie populaire française, ça me faisait marrer. De Chauvron, en sortant du Bon Dieu, je me suis dit, bon, bah allons-y, c'est marrant. Je trouve que c'est rigolo de faire tous les genres. Moi, je suis quelqu'un de libre, donc j'ai envie d'aller dans tous les mondes. Et leur écriture est très bonne. Ils ont un sens des dialogues évident. Et puis, ça me faisait rire. C'est un vrai film de gauche pour moi. C'est, finalement, c'est comment ils sont obligés de coller à leurs propres valeurs. Et c'est un peu compliqué, des fois, quand on a été élevé dans les valeurs de gauche, de dire, oui, on accueillerait ou des migrants, ou des Roms, ou des réfugiés. Est-ce qu'on le ferait? Voilà, donc on joue là-dessus. On se fout de la gueule des bobos de gauche, un peu intello. Ouais. Et puis, tout ça est très bon enfant et le film est très drôle.
En plus, le film n'est pas du tout un film à message.
Non,
mais là, on est d'accord. Mais ça met les gens en face d'une vérité. Quand vous avez votre... Le français qui a son petit jardin, qui vient de construire sa petite maison, même si c'est pas Étienne de Fougerolles dans le film, qui vient de construire son petit pavillon avec son petit jardin, etc. Est-ce qu'il est prêt à accueillir une roulotte avec des roms sur son jardin? Est-ce qu'il est prêt, même s'il dit tout le temps dans la rue, et moi je suis, voilà. Donc il faut mettre le doigt là-dessus. Ouais. Est-ce que les gens sont en accord avec ce qu'ils disent, etc. C'est un peu ce que dit le film. Évidemment. Sous le couvert de la farce. Car pour faire rire, il faut exagérer les choses.
Exactement,
ce qu'on appelle une licence poétique.
Quand il dit, à l'époque du Père Noël est une ordure, on a fait des petits gants, des moufles à trois doigts pour nos petits lépreux de Jakarta, il dit, on n'a pas été poursuivis par les lépreux, par l'Indonésie, whatever. À un moment, il faut aussi de rire. Je sais pas, tu regardes Babysitting ou les Very Bad Trips, ça va loin. Enfin,
Elsa Zieberstein, ce titre, moi je me souviens, j'en ai longuement parlé avec Jean-Marie Poiré, le titre, le Père Noël Noël est une ordure, oui. C'était super culotté.
Exactement.
Je sais pas si aujourd'hui on ferait un film qui s'appelle ouais. Le Père Noël est une ordure. Alors, hein, vis-à-vis
d'ailleurs,
des enfants.
À bras ouverts, s'appelait avant, s'il vous plaît.
Ouais, non, ouais. C'était un titre de travail. Moi, j'ai dit, on n'a jamais donné le scénario avec ce titre.
D'accord.
Hein. D'ailleurs, il était presque plus drôle à la limite, ce premier ouais. titre. Mais finalement, le film, c'est vraiment à bras ouverts parce qu'ils vont accueillir les mecs à bras ouverts.
Ouais, c'est
donc,
ça.
C'est pas un film sur les Roms qui sont en train de mendier, le film
ouais,
du tout.
Pas du tout.
C'est un film sur deux bobos de gauche qui vont devoir accueillir une famille Rome dans leur jardin. Donc, le film est vraiment à bras ouverts.
Alors, il fallait évidemment. Vous étiez sur le fil parce que vous devez jouer une bourgeoise un peu comme ça, et c'est un peu cervelée, qui fait ouais. de la sculpture, etc. Mais il ne faut pas tomber dans la caricature. Et c'est un exercice d'acteur. Hein.
Faut toujours trouver la vérité, en fait. C'est pas, moi, que je prenne un drame ou une comédie, dès que tu prends un rôle, faut le trouver à l'intérieur. Ouais. Donc voilà, c'est pas question. Après, on a le talent de comédie ou pas, on a le rythme de comédie un peu plus que d'autres ou pas. Mais c'est trouver la vérité, la sincérité à la base.
Vous n'aviez jamais joué avec Christian Clavier ?
Non, non. Machine de guerre.
C'est vrai ?
Super acteur, Christian. C'est un grand acteur, Christian. Ouais, absolument. Il est hallucinant. Mais il a un sens de la comédie hallucinante aussi. Donc c'est vraiment... J'étais vraiment dans un autre type de film aussi, dans une sorte oui. de mécanique de comédie où...
Et Harry Habitant...
Il est génial dans le rôle, Harry.
Oui,
ouais, très, très drôle. Et on a travaillé avec des Roms qui nous ont conseillés, qui ont donné des notes sur le scénario et tout ça.
Absolument.
Ouais, ouais, ouais.
Et qui ont même ri aux blagues.
Ils adorent le film. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Alors, moi, je voulais quand même en profiter, de profiter de votre présence dans cette grande séance pour parler un peu de votre carrière. Parce que là, on a fait une petite sélection, mais quand on voit que
choses,
de 91... oui, mais je sais, moi, j'ai compté 61 films.
Oh, non, il n'y en a pas 61.
Je vous jure.
Avec des rôles importants, non.
Ah, pas avec des rôles importants.
Ouais, Jefferson, si c'est rien, il n'y a rien.
Si on
mais
prend
voilà.
les petits rôles, ça fait 61
ah bon,
films
bah
en 25
oh là
ans.
Oh là là, mon Dieu.
C'est pas mal.
Et
hein.
du théâtre,
une dizaine ouais, de pièces de théâtre, la télé. Et le théâtre, j'ai remarqué, on en parlera tout à l'heure, c'est que. Il y a eu une période où il y a eu 3-4 ans sans théâtre, mais sinon, c'est presque tous les 2 ans. Hein. C'est les planches. Hein. Vous essayez quand même. Hein.
Ouais, mais c'est pas un. C'est ça me choisit, quoi.
Ça vous choisit. C'est pas vous qui y allez. Qui
non, j'y vais.
Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas politiquement correct,
s'il
ça.
S'il vous plaît, s'il
allez,
vous
je vais,
plaît.
Je vais être viré de cette
radio. J'y vais quand je peux pas échapper. Tout d'un coup, quand Géraldine Maillet... Quand le rôle est tellement hallucinant que je suis obligée de dire oui.
Quand
Géraldine Maillet qui m'écrit Nathalie Wood. Et je lis Nathalie Wood, c'est 1h20 seule en scène. Je me dis, mais j'ai pas tellement envie d'être seule en scène, là. D'un coup, le rôle, je fais... Ah, je suis obligée de le faire.
Ouais.
Donc, je vais au théâtre quand... Là, on m'a proposé plein de pièces, je vois, j'ai lu... Non,
mais
pas essentiel, je me dis non.
Pas essentiel,
voilà,
ouais. Pas parce que vous avez peur du théâtre.
Pas du tout.
Non, mais c'est ce que je veux vous dire, c'est
non,
parce que vous, mais vous aimez bien être sur les planches.
Je sais pas.
Ah, il y a un petit doute. Ouais.
Mais disons que quand j'y vais, c'est parce que ça s'impose.
Ça s'impose, c'est
là,
ça.
On m'a proposé plusieurs pièges, donc je demande toujours une lecture, moi. Alors, à la fin de la lecture, je sais. Est-ce que j'ai besoin d'aller dire ça tous les jours, oui ou non? Ça va très vite.
Ouais, mais est-ce que vous êtes quelqu'un de traqueuse? Parce que dans vos films, on voit effectivement une réserve, on a l'impression que on se cache derrière quelqu'un plein de traque. Et là, quand on vous voit, on vous voit à l'aise, bonjour, tout va bien.
Traqueuse, t'as toujours le traque quand tu rentres en scène. Ouais. Quand je faisais Nathalie Wood, 1h20 seule en scène, j'étais allongée au départ, les gens rentraient. Je peux vous dire que... c'est un trac qui est porteur. Je suis chargée, je suis pleine, ça y est.
On ne peut pas ne pas citer la phrase de Jouvet, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est que Jouvet rencontre une jeune actrice qui dit « Maître, je n'ai pas le trac » et lui dit « Ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. » Voilà, ça, il faut le dire, parce que le trac au théâtre...
Après,
c'est...
j'ai envie de dire « Chacun est comme il est, il y a des gens qui sont cool. » Je pense que fatalement, tu as une angoisse quand tu rentres sur cette scène, quoi. C'est vertigineux.
Et alors, je reviens à votre carrière au cinéma. On parlait de Van Gogh, on connaît l'histoire. Vous êtes sur le plateau de Van Gogh pour un autre rôle. Il vous repère. Il y a une fille qui fait défaut. Il vous prend dans un rôle plus important. Et puis, votre carrière décolle. Et c'est vrai que vous avez vraiment fait dans tous les genres. Vous avez tourné avec Raoul Ruiz. Vous avez tourné des films plus graves avec Martin Dugobson, Mina Tannenbaum. C'est-à-dire des très beaux films. Et des comédies qui étaient géniales, comme Tenue correcte exigée, que
Philippe
personne n'oubliait, de Philippe Puret. Alors, ce qui est drôle, c'est que d'habitude, dans le métier...
Ou Christian Vincent, ou
absolument,
Anne Fontaine.
Beau fixe, c'était super. Ouais. Dans le métier, généralement, on a un emploi et vous faites tout,
non,
quoi.
Non, pas d'emploi, moi.
Pas d'emploi.
Je veux jamais avoir d'emploi. En fait, je pense que j'ai tout de suite voulu échapper à ça.
C'est vrai? Vous avez senti ça?
Non, mais inconsciemment, je pense que quand elle m'offre Mina Tannenbaum, je sais que je suis plus Woody Allenienne, dans le sens où je peux tout faire. Je le sens quand je joue Mina et que j'ai une palette, enfin, j'ai l'impression que j'ai une palette de jeux très large et je me dis, j'ai envie jamais de me l'interdire. et je veux me dire demain je peux bosser avec Philippe Garrel ou Arnaud Desplechin ou aller faire une comédie grand public. C'est-à-dire que jamais je ne veux m'interdire cette liberté-là. Il y a que la snobberie ambiante ou les qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est moi qui décide en fonction de mes envies d'actrice et des metteurs en scène à qui j'ai envie de travailler. Là, je vais commencer un film avec Roger Avary. Après, je viens de quitter De Chauvron aujourd'hui et je travaille avec Roger Avary, qui a écrit Pulp Fiction, qui a écrit Reservoir Dogs et True Romance. Donc, oui, je veux cette liberté-là. Je viens de faire un petit rôle avec Julianne Moore. J'étais à New York, là. Voilà. Donc, je trouve que c'est important d'être libre.
Mais c'est vous qui l'initiez, cette liberté, où on vous propose un choix, un éventail assez large, ouais, pour que vous puissiez picorer.
Maintenant, on me les propose. En fait, Anne Fontaine, elle est venue me proposer, alors que ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. Lui aurait peut-être qu'un jour on se retrouvera. Après, c'est les hasards de la vie.
N'es-tu que je l'aime, c'est un film grave.
Il y a longtemps que je t'aime, c'est Philippe Claudel qui l'a écrit pour moi. Ouais, il a écrit pour moi le rôle. C'est un peu. Après, il y a des choses que je peux générer ou des envies que j'ai, mais je me laisse porter. Mais c'est vrai que je me sens très libre d'aller partout.
J'ai une question parce que effectivement, je sens beaucoup de liberté dans votre filmographie. Ouais. Il y a quand même dans la liste des films qu'on peut voir un rôle ou en tout cas une envie, c'est un film avec le Claude Lelouch
J'avais très envie.
On a l'impression que c'est quand même beaucoup plus réfléchi et surtout beaucoup plus investi parce que vous êtes rayonnante, je trouve, dans ce film-là. Du coup, est-ce que c'est pas quelque chose qui a été plus longuement réfléchi?
Non, alors pas du tout. Il a été totalement inspiré. Alors, réfléchi de 20 ans, parce que Claude Lelouch, c'était vraiment un réalisateur avec qui j'avais, comme Jean Dujardin, on a tous les deux grandi avec Claude Lelouch. Peut-être quand j'étais au cours Florent, à 19 ans, Claude Lelouch a dû venir faire une masterclass. Quand t'as 19 ans que Claude Lelouch arrive, fait sa masterclass, tu dis, mais moi, je veux cet homme me filme un jour. Et donc, 20 ans après, il me filme. Donc réfléchi d'envie et de, mais je crois beaucoup. En fait, c'est Jenna Roland un jour qui m'a, j'ai la chance de, avec j'ai dîné. On n'est pas une actrice à côté de soi-même. On est avec qui on est. C'est-à-dire que je suis l'actrice de la femme que je suis. Et si tout d'un coup Lelouch il me voit au bout de 20 ans, c'est génial. Mais c'était l'envie avec Jean Dujardin. Elle est née dans un avion parce qu'on a pris le même vol et qu'on s'est dit avec qui il faudrait qu'on fasse un film d'amour tous les deux. Très vite le nom de Claude Lelouch est arrivé. On a mis la musique d'un homme et une femme d'un homme qui me plaît entre nous deux. On a parlé d'un homme qui me plaît, qui est un film que Jean adore, avec Annie Girardot et Belmondo. Et en atterrissant à Los Angeles, on avait bu, mangé, rigolé, et toi, j'ai dit, OK, j'appelle Claude et c'est le film qu'on va faire. C'est un film à deux personnages, loin. J'ai appelé Claude Lelouch, j'ai dit, voilà, je suis avec Jean Dujardin, on veut faire un film avec toi. On rentre. 3 semaines après, on était dans son bureau, il avait le début du film. Donc, vous voyez, le truc est arrivé comme ça. Parce que je crois à ça dans la vie. Mais l'envie était là depuis 20 ans peut-être. Voilà.
Et ça a été un beau film, un beau voyage en Inde, et c'est vrai, c'est une belle réussite.
On a fait 1 million d'entrées, donc c'était génial de voir une adéquation, une envie du public et de nous suivre.
Alors du coup, dans cette carrière, comme vous êtes très éclectique, ma chère Elsa, est-ce qu'il y a des choses dont vous rêvez?
Oh, mais oui.
Quoi?
Arnaud Desplechin, je l'ai dit.
C'est vrai.
Arnaud, j'adore ce qu'il fait. On se connaît bien.
Ouais.
On verra. C'est lui qui décidera quand.
Alors Arnaud Desplechin.
Arnaud, j'adore ce qu'il fait depuis très longtemps. C'est un peu une. J'ai grandi avec les films d'Arnaud. Enfin, voilà. On se tourne autour, mais un jour c'est lui qui décidera.
C'est
on s'envoie des lettres, on se. Voilà.
On espère qu'il va être à Cannes, là, aux Hervé Antoine.
Oh,
on
est pour lui. Arnaud, il n'y a même pas de sujet, mon pauvre Renaud.
Les fantômes d'Ismaël.
Oh, mon Renaud, il n'y a pas de sujet, il va y être. Non, Ozon, j'aimerais beaucoup. Je pense que je suis une actrice pour Ozon. Parce que j'adore ce qu'il fait. Voilà quelqu'un aussi d'éclectique, Ozon. Je trouve qu'il a. France, je trouve que c'est un film magnifique. Il fait jeune et joli, en même temps potiche. Je me retrouve presque dans sa manière d'évoluer dans le cinéma de liberté.
Et Ozon, on en parle aussi, puisqu'on s'amuse à Les Amants doubles avec Jérémy Régnier et Marine Wacht. On en parle aussi dans les pronostics, dans les rumeurs, pardon.
Ah, c'est un nouveau. C'est son nouveau.
C'est son nouveau. D'accord. Mais enfin, on parle de tellement de gens cette année pour le 70e anniversaire du Festival de Cannes. Par contre, un scoop, je peux vous dire qu'Abdelatif Kechiche n'ira pas parce qu'il y a des problèmes juridiques autour de son film. Il y a souvent des problèmes avec Kechiche, Et que Dunkerque ne sera pas là non plus. On y pensait pour le film d'ouverture.
Dunkerque,
c'est un film de Christopher Nolan, mais alors qui a changé complètement ces thèmes, puisque c'est la poche de Dunkerque en 39-45, quand les alliés ont été coincés dans la poche de Dunkerque. C'est un film de guerre, quoi. C'est un film de guerre. Question, Claire Fayot.
Oui, j'avais une question pour Elsa Zilberstein. Je voulais vous demander, est-ce que vous seriez prête à faire un film de science-fiction ou un film de genre
Ghost in the Shell.
Ouais, moi tout m'intéresse. Moi tout m'intéresse.
Jouer dans le Star Wars.
Ouais, grave, vraiment, ouais.
Mais
moi,
Juliette,
m'intéresse en fait.
Mais moi,
j'ai jamais fait ça encore, donc ça pourrait m'amuser, ouais, bien sûr.
Le personnage que je préfère dans Ghost in the Shell, c'est celui de Juliette Binoche. Elle est vachement bien.
Ah oui, elle joue dedans.
Elle a fait ça pour faire plaisir à ses enfants parce que c'était ce manga, etc. Donc elle se retrouve au milieu
de
Scarlett
Johansson.
Elle a lu
le scénario, elle a pas tout compris tout de suite,
il y a quand même Takeshi Kitano, Juliette Binoche et Scarlett Johansson.
Ouais, c'est
quand même surréaliste.
Hein. Juliette Binoche était déjà dans Godzilla de Gareth Edwards.
C'est vrai. C'est vrai.
Non, il faut être libre, enfin, faut faire les choses qu'on a envie, je crois que c'est... Voilà.
Alors, on va écouter la très jolie chanson de Jean-Louis Aubert qui va rappeler des souvenirs à Elsa Zilberstein, qui est tirée évidemment de la bande originale de Il y a longtemps que je t'aime de Philippe Claudel. On écoute.
Combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Tu m'as dit au printemps, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleurir et déambulerons dans les rues de Paris. Mais dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau en cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve et je frissonne. Je tangue, je chavire et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. J'ai le mal d'amour, j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde m'émerveille. J'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas le seul qui meurt de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Passe, ne sera
très 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 jolie chanson de Jean-Louis Aubert, dit qu'on reviendra tout. Vous disiez Elsa, vous vous souvenez de la façon dont il a gratté sa guitare à l'époque de, du tournage du film de Philippe Claudel.
On était en train de tourner, il était dans l'entrée, puis il a commencé à gratter avec sa guitare en disant tiens, je vais peut-être faire ça comme reprise et tout, c'était sublime.
C'est magnifique.
J'adore cette version.
Ça c'est de la très belle reprise. On se retrouve dans un instant pour notre séquence événements.
Les événements cinéma sont dans la grande séance.
Alors, parmi les événements, alors évidemment, c'est pas à Paris, 9 jours de films et séries en avant-première à Hollywood, à Los Angeles, du 24 avril au 2 mai, c'est le festival Kolkoa, le plus français.
J'étais l'année dernière, c'est génial.
Racontez.
Ah ben, c'est dingue, j'ai présenté 1+1. Et je leur ai amené Quentin Tarantino, ils n'en sont pas revenus.
Ah,
alors
génial.
Du coup, c'était génial. Et Quentin était venu fou d'1+1. Et c'était un grand moment. Et pour moi, c'était un vrai... Pas comme un cadeau de la vie d'amener Tarantino voir le film de Claude. C'était magique, voilà.
Ah,
et après, on a fait un Q&A et voilà, Tarantino a adoré notre film, donc ça m'a fait plaisir.
Il faut dire aux auditeurs donc, que chaque année, en fait, c'est les Américains qui rendent hommage aux films français. Et ils voient des films en avant-première aux États-Unis. Donc, c'était Jean-Paul Rapneau, Michel Hazanavicius, Bertrand Blier. Cette fois, c'est Stéphane Brisé qui est l'invité d'honneur.
Ah, génial.
Il aura une carte blanche.
Génial.
Une carte blanche donnée aussi à Damien Chazelle qui vient de faire La La Land quand même. Et il y aura des films restaurés, on en parlait tout à l'heure, qui seront projetés avec des prix. Et si vous voulez la liste des films qui sont en compétition, par curiosité, vous allez sur www.kolkoa.org. Deuxième événement, c'est le festival Sérimania à Paris, qui se déroulera du 10 au 23 avril au Forum des Images à Paris. Plein d'avant-premières mondiales, des conférences, des tables rondes. Donc, parmi les invités qui seront donc au Forum des Images, Damon Lindelof, qui est co-créateur quand même de The Lost et de Leftovers, qui sera président du jury. Juliana Margulies, qui jouait dans Urgence et dans The Good Wife, donc j'ai vu quelques épisodes, moi, et qui est auteure et productrice. Adam Price, qui est scénariste et créateur de la série politique Borgen, qui est une série célèbre s'il en est. Et voilà, et il y aura une 60aine de séries en sélection. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a une compétition officielle.
Oui.
10 films en compétition officielle. C'est un peu le festival de Cannes de la série, apparemment. Et je crois qu'on va le délocaliser, c'est
oh là
ça
là. Oui, gros bordel.
Expliquez-nous, Antoine.
Ah bah, en ce moment, c'est l'affrontement entre Lille et Cannes. Donc Lille a remporté la candidature pour accueillir ce qu'on pense être le futur Sérimania et le futur série qui est le festival de Fontainebleau.
Ouais.
Et à côté de ça, Canal Plus finance un contre-festival à Cannes.
Sur les séries.
Voilà.
À Cannes aussi.
Qui va être un peu diligenté par Fleur Pellerin qui va mener ça.
Et j'ai entendu ça aujourd'hui.
D'accord. Bon, et ben on se retrouve dans un instant pour notre débat. Et ça tombe bien, ça va être les séries contre le cinéma, le cinéma contre les séries. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui est en train de bouffer l'autre, etc. On se retrouve dans un instant. Et surtout, si nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, ont un avis sur la question, ils peuvent la donner. Mais j'en profite pour vous dire au revoir. Plutôt que ce soir,
merci pour votre accueil.
Mais c'était un plaisir et merci d'être venu jusqu'à chez nous.
Passionné comme ça.
Voilà, absolument. Et bonne route et bon chiffre ce soir pour à bras ouverts.
Ouais,
voilà.
C'est gentil. Merci
à vous, Elsa. Merci. Et on se retrouve donc dans un instant pour notre débat.
La grande séance, le débat.
Alors, à nous de jouer, les séries contre le cinéma, les cinémas contre les séries. C'est drôle parce que c'est un débat que j'entends depuis longtemps. Depuis que les séries sont de qualité, et ça fait un bout de temps, et parfois les auditeurs, les spectateurs veulent dresser l'un contre l'autre, alors qu'on peut dire que ce sont deux médias, entre guillemets, ou deux arts très différents. Alors, c'est vrai que les séries, et vous, les jeunes, j'ai envie de dire...
Merci vous Bruno de m'inclure dans le lot.
Claire, Alexis, Antoine, vous avez vu, vous voyez... Est-ce que vous voyez régulièrement des séries?
Oui.
Claire?
Oui, mais je ne suis pas une binge-watcheuse. C'est-à-dire, je ne suis pas une boulimique de séries. Je vais plus au cinéma que je ne regarde de séries.
Ah, c'est rare, oui. Mais comment vous choisissez vos séries, par exemple? Vous
le
les voyez
bouche
à la télévision?
Alors après, j'ai déjà fréquenté Sérimania, qui peut donner de bonnes idées, qui est vraiment un festival très sympa. Donc voilà, c'est principalement le bouche à oreille, hein, les collègues, les amis, voilà, ils disent oh, cette série elle est super, tente. Donc voilà, c'est comme ça. Hein.
Et vous, bah, Alexis,
moi c'est aussi compliqué puisque moi je regarde beaucoup plus de films et après c'est le problème, c'est que l'offre est trop importante. Souvent quand on arrive à la rentrée, il faut regarder au moins 10 séries en même temps qui sont apparemment toutes extraordinaires. Donc évidemment il y a des séries historiques, il y a des séries de science-fiction, il y a des séries que c'est plus un thriller, d'autres policières. Enfin il y a tellement d'offres que c'est difficile de s'y retrouver. Moi je suis très fidèle à certaines séries que des fois je peux même regarder plusieurs fois de suite, mais j'ai du mal des fois à me lancer. Donc comme Claire, moi c'est vraiment le bouche à oreille qui me motive.
Et vous, Antoine?
Bah moi je ne choisis pas, parce que ma soirée type c'est quand je me mets un film à 21h, et puis à 23h quand le film n'est pas trop long, on termine la soirée avec un petit épisode de série. Donc
incroyable.
Voilà.
Et tu dors pas,
un mélange, vous.
Exactement.
Mais juste un épisode.
Binge watching.
Vous n'avez pas envie d'en voir un autre. Alors, vous qui êtes des fins connaisseurs du cinéma, comment tour à tour prenez la parole, vous analysez la différente façon d'écrire une série et un film. Qu'est-ce que vous diriez? Parce que c'est quand même très différent. Claire Fayot.
Essayer. Alors, un film, ça doit durer entre 1h30 et 2h30.
Ouais.
Donc il y a une contrainte temporelle qu'il n'y a pas dans les séries. Un film, on condense, on donne le meilleur tout de suite dans le film. La série, on développe les personnages, on prend son temps, on leur invente une histoire, on leur invente des relations, etc. Une série, on a une incontinence. Il y a tout d'ailleurs, en général, c'est pas un scénariste. Hein, ouais. C'est une équipe, ils sont combien parfois,
ouais,
10,
ils sont
20.
Très nombreux. Ouais.
Voilà, donc c'est pas du tout la même, je pense, la même réflexion, quoi, la même création.
Et puis à chaque épisode, il faut qu'il y ait quelque chose qui donne de l'addiction à la série.
Ça, c'est terrible.
Antoine.
Un cliffhanger, ça s'appelle. Ouais. C'est-à-dire, dans les dernières secondes de l'épisode, il faut pousser le téléspectateur à revenir la semaine prochaine. Moi, une petite anecdote, justement, j'avais ce débat-là avec un ami, et je lui expliquais que moi, je n'arrivais pas à écrire sur les séries, alors que j'adore écrire sur le cinéma. Pourquoi? Parce que pour moi, une série, c'est une œuvre qui, par définition, n'est pas finie. C'est-à-dire qu'il y aura possiblement une saison, voilà, alors que nous on est là quand même pour dire notre avis sur quelque chose
d'achevé,
alors qu'une saison 1 peut être très bien, alors qu'une saison 2 peut être complètement ratée. Donc voilà, j'ai cette difficulté à appréhender la critique de série, en tout cas.
Alexis.
Bah après, au niveau du cliffhanger, justement, c'est l'idée de revenir la semaine suivante pour voir le même épisode. Mais maintenant, on a des nouveaux systèmes de diffusion comme Netflix, par exemple, qui, eux, par exemple, proposent la série entière d'un coup. Et justement, on arrive à des systèmes de binge-watching, où justement, les gens regardent tous les épisodes d'un coup. Donc, ils se réservent une journée complète pour regarder 10 heures d'affilée la série, comme si c'était un seul bloc.
Film, ouais.
Voilà.
Des marathons de séries.
Voilà, donc, c'est un autre système d'appréhender une œuvre, parce que des fois, on peut avoir des petits épisodes de 22 minutes, des fois on arrive à des épisodes d'une heure, ou même les derniers Sherlock Holmes, ils font une heure et demie. Enfin, on a un système différent de création, et puis on a ce qu'on appelle le showrunner dans la série, qui est quand même la personne qui est en quelque sorte créateur de la série et doit donner une ligne directrice ensuite à tous les gens qui vont travailler autour. Donc après, on a quand même l'idée d'une personne créatrice, comme on peut avoir un réalisateur ou un producteur pour un film.
Et puis c'est relativement récent. Les grands metteurs en scène de cinéma, comme Scorsese ou Soderbergh, se sont mis à la série. Pourquoi, d'après vous?
Je pense que ça leur permet d'expérimenter un autre format. Alors, Soderbergh a fait Zonic, qui est une série historique avec Clive Owen sur les débuts de la chirurgie. Et Scorsese, il a fait des pilotes. Hein. Après, il a cédé Boardwalk Empire. Si je ne me trompe pas, et Vinyl
ouais. Qui n'a pas été renouvelé.
Ouais,
mais alors c'est dingue,
comme
parce
quoi,
que Soderbergh.
Être un bon cinéaste lancer une série, ça ne marche pas.
C'est rigolo parce qu'il y a l'exemple de Scorsese, Vinyl n'est pas renouvelé, pas de deuxième saison. Il y a l'exemple qui me donnait tout à l'heure, c'est
Zonic.
Vous, Antoine
Zonic.
Alexis.
Bah justement, Soderbergh lui s'éclatait sur cette série-là, puisque il était à la fois, il n'était pas créateur de la série, mais il est ni scénariste, mais il était réalisateur. Il dirigeait les acteurs sur le plateau, il était cadreur, il faisait la photo, il faisait le montage.
Incroyable.
Donc, il faisait tous ces postes-là sur 10 épisodes par saison, donc il en a fait 20. Pour moi, la série, c'est une des meilleures séries que j'ai vues ces 10 dernières années, et elle sera pas renouvelée pour une troisième saison. faute de public, faute d'audience. Donc après, c'est très difficile puisque moi, je pense aussi à la série The Young Pope de Paolo Sorrentino, que je trouve extraordinaire, mais quand je la regarde...
C'est plus du cinéma que de la série, non ?
J'ai un peu mon regard de cinématographe derrière et je me dis, ah, moi, c'est ce qui m'inspire parce que moi, j'aime pas mal le cinéma de Paolo Sorrentino, donc je m'y retrouve là-dedans. Mais après, est-ce que quelqu'un qui consomme les séries
je suis d'accord avec
arrivera
vous.
À rentrer dedans ?
Moi, quand j'ai vu The Young Pope, je l'ai pris comme du Sorrentino pur, comme un film qu'il aurait pu faire. Il y a combien d'épisodes ?
Il y a 10 épisodes.
Moi, j'en ai vu que deux. J'en ai vu que deux parce que j'avais été invité pour les voir, puis j'ai pas vu la suite. Et ça aurait pu être un film, quoi. Mm. Il aurait pu faire un film qui s'appelle Young Pop, le faire en deux heures, résumer tout ça en deux heures.
En plus, il y a Jude Law. Enfin, il y a un casting comme on pourrait en trouver au cinéma.
C'est exactement le même syndrome Baz Luhrmann et là, c'est sa série The Get Down. C'est que il fait un film avec ses mêmes techniques, ses mêmes sonorisations, son même visuel. Et en fait, finalement, qu'est-ce qu'il faut dire sur le passage d'un réalisateur du cinéma à la série, c'est que finalement il n'arrive pas à se détacher de sa technique cinématographique.
Et il doit tenir la distance, c'est ça aussi.
Ce qui est drôle, c'est qu'on est en train de donner des exemples de cinéastes qui ont voulu se colter prendre à bras le corps des séries et c'est ils ne se sont pas renouvelés. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'Hollywood, enfin, en tout cas, le monde de la télé est impitoyable, puisqu'on dit quand même à Soderbergh, deux saisons, ça va, mais c'est pas rentable ou ça marche pas. Ça veut dire que les consommateurs de séries, devant The Young Pope ou devant The Knick, ne sont pas convaincus.
Je crois que Top of the Lake, par exemple, de Jane Campion,
c'était magnifique.
Ça marche, donc bon, c'est...
Non, mais ça, il y a une saison, c'est tout.
La deuxième va sortir.
Ah, il y a une deuxième saison. Génial. Vous voyez, moi qui aime le cinéma. Mais il faut dire aussi à ceux qui nous écoutent et ceux qui n'ont, des plus jeunes, qui n'ont peut-être pas vu les films de Fellini, les films de Visconti, les films de l'époque de Scorsese, etc. C'est qu'un film de David Lean, comme le disait Claire Fayot tout à l'heure, c'est que un film construit en 1h30 quand on fait bien son travail ou en 1h50, c'est un art en soi, c'est l'art de l'ellipse, c'est l'art de raconter les choses encore une fois dans un moment relativement court et de tout mettre sans que ce soit bourratif. Et ça peut être corporate, par exemple, c'est un petit bijou à sa manière. Évidemment, on peut faire une série de corporate, mais ça serait trop long, ce serait autre chose, on tirerait un peu la ligne, il faudrait recréer. C'est vrai que c'est pas la même facture. D'accord.
Mais après, les séries maintenant, elles augmentent au niveau de la qualité artistique. Le meilleur exemple, c'est Game of Thrones de chez HBO, où maintenant on passe à des budgets de 3 à 5 millions par épisode, donc il y a énormément d'argent. Et moi, je pensais à un des derniers épisodes de la dernière saison qui a été diffusé, qui est un petit peu. Il y a une scène de bataille avec des chevaux et tout ça. Et c'est un peu le petit Ridley Scott illustré. On voit quasiment les mêmes plans, je sais pas, dans Gladiator ou Exodus. Et là, on a une qualité visuelle de film, de long métrage, dans une série télé. Donc après, au niveau de la concurrence de ce que proposent les séries télé par rapport au cinéma, on arrive quand même à un kiff-kiff qui demande quand même au cinéma de se bouger un peu, sinon ils vont se faire vite bouffer.
Oui, et les salles commencent à diffuser de la série aussi. C'est-à-dire qu'on invite les salles à
les salles
programmer
de
des séries. Maintenant.
Ah oui.
Je pense que c'est la prochaine étape.
C'est vrai ?
Oui, je pense que les salles de cinéma vont s'ouvrir à d'autres programmes. Game of Thrones, justement, ils faisaient des événements dans des salles IMAX pour diffuser genre les deux premiers épisodes. Mais je pense qu'à terme, on peut arriver où on pourra découvrir, limite, toutes les semaines, un épisode de série télé qui coûte des millions de dollars dans une salle de cinéma. Il y a un public pour ça.
Claire Fayot ?
Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que des films sont adaptés en série.
Oui.
Voilà, donc ça arrive. Donc on étend l'univers.
Mais Gomorra, par exemple.
Voilà. Et à l'inverse, il y a une tendance dans le cinéma actuel à finalement, j'allais dire, sériser des films. je pense par exemple, typiquement à La Belle et la Bête, on va revenir dans le passé de La Belle et la Bête. Tout ce qui est Marvel, finalement, c'est pas une série, mais enfin, si, quelque part, ça devient une série, puisqu'on retrouve les personnages. Tout ce qui est spin-off, finalement, on peut voir ça comme une grande série.
Même
c'est
Marvel
vrai que la frontière est...
fait Agent of S.H.I.E.L.D. en relation aussi avec ses films. Donc il y a une série d'un côté, il y a les films, et c'est le même univers.
Maintenant on peut plus dire comme insulte en parlant d'un film, c'est un téléfilm ou c'est du niveau d'une série télé. Non, c'est pas vrai. Maintenant les deux s'influencent et ont effectivement la même valeur, je pense, dans le cœur de certains spectateurs.
Justement, je pourrais vous poser la question, si vous deviez vous passer de l'un ou de l'autre, ça c'est une question un peu dégueulasse, hein. Le cinéma ou les séries, qu'est-ce que vous sacrifieriez?
Moi, je me passe des séries sans hésiter.
Si je devais me passer de quelque chose, je pourrais pas me passer des films, mais si je devais bosser dans quelque chose, je prendrais plutôt la série télé, puisqu'il y a moins d'argent en jeu, on a plus de moyens de décider.
Et vous, Antoine, si tu fallais choisir série ou cinéma, si vous deviez regarder pendant le reste de votre vie l'un ou l'autre?
Série, évidemment.
C'est une question un peu idiote.
Je sacrifie la série.
Ah, vous sacrifiez la série?
Non, moi je garde.
Il est artistiquement correct. Cinéphiliquement correct.
Exactement.
On peut dire ça. On se retrouve dans un instant, on retourne au cinéma. Un quiz qui devrait être facile, un spécial Christian Clavier.
Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
Le blind test, comme dans The Voice, mais dans un, pour un exercice différent. Sauf qu'on voit. Alors écoutez bien, c'est un film de 2004.
Oui, mais attendez, dites donc, c'est de la marijuana. Non, vous pourriez avoir des ennuis, parce que c'est interdit de faire pousser de la drogue, hein.
Interdit par qui? Qui peut avoir le droit de décider pour moi ce qui est bien ou mal, hein? Qui?
Tout le monde n'a pas vu ce film, hein.
Pas personne.
Et alors là, où vous les emmerdez?
Mais personne.
Ce qu'ils interdisent, c'est que je la fume pure.
Alors c'est un film d'Hervé Pallu qui s'appelle Albert est méchant. Ça vous dit quelque chose?
Oui, mais je l'ai pas vu. Avec Michel Serrault?
Normalement, oui. Deuxième film.
Tu vas la demander en mariage?
De ce pas.
Qu'est-ce qu'on a fait au
bon
Dieu?
Falbala n'est pas une fille pour toi, voyons.
Falbala.
Astérix
et Obélix contre César.
Je veux dire.
Claude Zidi en 1999. Il y a presque 20 ans. Incroyable.
Oui, mais non.
Facile.
Désolé, on a un petit contretemps.
Rien grave?
Non, on trouve rien. Non, mais il se trouve que ma mère a disparu dans la jungle avec les amis de ma fille.
C'est Philippe, Babysitting 2.
Non, on regarde une vidéo qui va nous permettre.
Tir groupé d'Alexis et d'Antoine. Le 4.
Vous n'étiez pas obligé de tirer si violemment cette manette.
Les visiteurs, bravo. Excellent. Le 5.
Bonjour, il y a quelqu'un?
Et pourquoi?
Je voudrais voir une paire de chaussures que vous avez en vitrine, s'il vous plaît.
Il n'y en a plus.
Et ce mocassin, là, sur le présentoir, c'est du faux retourné.
J'ai plus votre taille.
Ah. Bon, bah,
accent,
je repasserai.
Accent. C'est plus votre taille.
Repassez vers 18h. Ce sera plus calme.
Effectivement.
Ça vous rappelle rien, cet accent? Voilà, ce sera plus calme. Repassez. Le 6.
Il a eu les jetons.
C'est difficile, ça.
Attends, qu'est-ce que tu es venu faire dans ma fille?
C'est les anges gardiens.
Bravo,
Alex Gérard.
C'est trop fort.
Alex Gérard.
On l'avait oublié, celui-là. Hein. Jean-Marie Poiret, hein, 1995. Le 7.
Allô.
Oh, ça c'est vieux, ça. Très bien.
Tu m'entends?
Il était jeune, hein, l'ami
Christian. Voilà, je te t'appelle de Lyon. Non, mais je ne rentrerai pas ce soir. Maintenant, je suis tombé sur mon copain Cristobal.
C'est très dur. C'est mon époque.
Opération Corned Beef, non?
Je vous fais pas languir plus longtemps. C'est Les Babacool, un film de François Le Terrier, qui date de 1981. Vous étiez pas né?
Je l'ai vu.
Voilà, c'est bien. Ah, si, moi j'étais né. 80.
Le numéro 8.
Bonjour, docteur.
Mais
c'est pourquoi?
Qu'est-ce que c'est que ça?
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Absolument.
C'est copain.
Comment ça, copain? Foutez-moi.
Les bronzés font du ski de Patrice Lecomte, qui date de...
Film culte.
Mais pourquoi vous êtes venu si je ne fais pas l'hypète?
1980.
86.
Non.
J'en sais rien.
79. Carrément. Celui-là, je ne le connais pas. Le 9.
Je suis désolé, j'ai dû bouffer une merde. Vous n'auriez pas un antivomitif, docteur Louis?
Louis?
Pardon.
Docteur Louis, ish, comme une quiche ou une biche. Ish, c'est pas trop dur.
Bon, allez vous coucher, ça va passer.
Ah, c'est pire quand je suis allongé. Dès que je ferme les yeux, je vois ces têtes de poisson tirer aux éclats. Là. Ah, c'est horrible, je vais en vomir.
Ah oui, c'est un film récent, je m'en souviens, je l'avais vu, qui était pas... On ne choisit pas sa famille.
Pas vu.
Ça vous rappelle rien? C'est une comédie. Et le dernier qui est récent, que vous avez peut-être vu, dont on a parlé, allons, on y va.
Bah, tu vas pas revenir là-dessus, Elsa.
Elle sait tout. Ce matin, je l'ai eu au téléphone. Elle était vraiment dans un état bizarre. Elle m'a fait tout un discours sur le fait qu'il fallait dire la vérité aux gens qu'on aime.
C'est la voix de Fais pas ci, fais pas ça, là. La voix de notre ami.
Ça n'a rien à voir avec toi. C'est une vieille histoire entre elle et moi. Une histoire complètement insignifiante d'il y a plus de 20 ans. Alors franchement.
Tu crois ? Mais oui.
Il écoute un disque. Il essaie d'écouter un disque.
Ah oui, une heure de tranquillité.
Bravo, Patrice Lecomte.
Tu n'as aucune raison.
Une heure de tranquillité en 2014. Et l'actrice.
Valérie Bonneton. Okay.
Valérie Bonneton, j'ai cherché son nom. Merci, mes amis. Dans un instant, on conclut cette émission et j'aurai une ou deux questions à vous poser.
La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
Alors, on va jouer le jeu, même si on va se retrouver début mai, à une quinzaine de jours du Festival de Cannes, puisque le Festival de Cannes commence le 17 mai jusqu'au 28 mai. Je profite de votre présence. Les rumeurs. Mmh. Qu'est-ce que vous avez comme bruit sur la présence des Américains, des Français à Cannes?
Isabelle Huppert, à fond. Ah.
Alors Isabelle Huppert,
Michael Haneke, qui
alors,
serait avec Michael
Isabelle Huppert, on dit elle est maligne, mais de façon positive, puisqu'elle est dans trois films qui pourraient être en sélection, dont le Haneke, avec Jean-Luc Trintignant, qui s'appelle Happy End. Haneke, le réalisateur du Pianiste, on trouvait déjà Isabelle Huppert. Et c'est une histoire d'une famille bourgeoise sur fond de migrants à Calais. Donc ça, c'est Happy End, Haneke, mais elle a d'autres films, dont un film de Hong Sang-soo. Donc, comme elle est dans trois films qui sont des films qui peuvent être sélectionnés, et comme elle aime être à Cannes, cette chère Isabelle, on va peut-être la retrouver. Sinon, on parle de Desplechin, Les Fantômes d'Ismaël.
Très bien, oui.
On parle de Ozon,
les amants doubles.
Vous avez entendu d'autres bruits, vous ?
Bah, moi, je me pose la question du gros blockbuster américain. Chaque année, on a un énorme blockbuster américain. Est-ce que c'est Pirates des Caraïbes ? Est-ce que c'est Les Rois ?
Moi, je ne vois pas en ouverture quand même. 70e édition. Non. Moi, je peux vous faire le pari maintenant. Là, je touche du bois. Qu'en ouverture, ils vont mettre Le Redoutable, qui est un hommage à Jean-Luc Godard, puisque c'est les derniers films d'Azanavicius. Que ça peut être en ouverture de Cannes. C'est un hommage à Godard. C'est Godard au moment du tournage de La Chinoise, que Louis Garrel s'est fait la tête de Godard et il parle un peu comme Godard. Et je pense que ce serait assez digne, assez noble de le mettre en ouverture de Cannes. En tout cas, on en reparlera dans un mois, le mercredi 3 mai. N'oubliez pas que le podcast de l'émission est disponible dès demain sur le site seanceradio.com et les agrégateurs de podcasts SoundCloud et iTunes notamment. Donc à bientôt, mes chers amis.
À bientôt. Bonne soirée.
Et on se retrouve.
C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.